Protégez vos biens, vos proches et votre voisinage avec l'assurance habitation de Sounou Assurance qui vous propose Priorité Santé. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui dans Priorité Santé, nous allons parler du mensonge dans le couple, ce coup de canif dans le pacte de confiance entre deux êtres liés par l'amour qui suscite des émotions fortes, variées, parfois dévastatrices. Après un ou plusieurs écarts révélés au grand jour, comment expliquer que certains couples résistent tandis que d'autres volent en éclats? Pour certains, le mensonge fait partie intégrante du fonctionnement de cette vie à deux, alors que pour d'autres, tout doit être transparent, allant jusqu'à refuser le moindre jardin secret à son conjoint. Et après un mensonge, quelle décision prendre? Se séparer? Se réconcilier? Pour dépasser l'épreuve, le couple devra s'arrêter sur son histoire, comprendre le parcours personnel des êtres qu'il compose et analyser la nature même de cette tromperie, savoir faire face aux conséquences pour l'entourage, les amis, les enfants. Faire face au mensonge, c'est une reconstruction qui impose de renoncer à ce couple initial qui s'était bâti sur la confiance, accepter sans forcément être d'accord ni se soumettre, reconnaître l'existence de la crise pour à terme réussir à cicatriser cette blessure, car après un mensonge, il est question de réconciliation, non pas forcément avec l'autre, hein, mais avec soi-même, se réconcilier pour réapprendre la confiance. Comment faire face aux mensonges, réapprendre la confiance ensemble ou séparément? Vous avez dû reconnaître dans cette petite présentation un certain nombre de points que vous traitez dans votre dernier livre. Lisa Le Tessier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes psychologue clinicienne spécialisée en thérapie cognitive et comportementale. Vous avez signé cet ouvrage publié aux éditions Odile Jacob, Le mensonge dans le couple. Tout à l'heure, nous retrouverons en ligne de Goma Fidelia Ojo, psychologue clinicienne de nationalité béninoise. Elle est actuellement en mission humanitaire en République démocratique du Congo. Et on attend, bien sûr, vos questions, vos témoignages, notre numéro, le 33 84 22 75 75, ou notre page Facebook. En fin d'émission, nous parlerons de l'émergence de souches de tuberculose multirésistante que les tests standards n'arrive pas à détecter. On va faire le point sur la toute récente étude du CNRS avec Philippe Supply, directeur de recherche au Centre d'infection et d'immunité de Lille.
Priorité santé sur RFI.
Lisa Le Tessier, est-ce qu'il faut parler du mensonge dans le couple ou plutôt des mensonges au pluriel?
Oui, des mensonges évidemment. Il y a plusieurs catégories de mensonges, il y a plusieurs intensités de mensonges. Il y a les mensonges du quotidien, il y a les infidélités, les mensonges d'argent, les mensonges sur la santé. Le couple est fait de plein de mensonges, malheureusement.
Et du côté du ressenti de la personne qui s'estime trompée, un tout petit mensonge peut faire très mal. Ce n'est pas forcément l'importance, la portée, même par exemple dans le temps, dans la durée de ce mensonge qui fait mal. Il y a le côté de confiance ébranlée, une sorte de trahison. Comment c'est ressenti justement?
Alors, ces ressentis vont être vraiment en fonction de la personnalité de la personne qui est trompée. Après, il y a quand même des degrés de gravité, évidemment. Mentir sur j'ai oublié d'aller chercher le pain alors que j'ai fait exprès de pas aller chercher, c'est pas tout à fait pareil que une infidélité ou un autre gros mensonge. Maintenant, effectivement, même des petits mensonges du quotidien peuvent créer cette impression, j'en parlais tout à l'heure, d'irréalité rétrospective, c'est-à-dire que tout d'un coup, le quotidien sur lequel on se construit avec l'autre, tout semble faux, c'est-à-dire que l'image qu'on avait de l'autre, on se dit mais en fait, il me ment sur ça, il me ment peut-être sur d'autres choses, et les émotions ressenties peuvent être énormes. On ressent vraiment comme un tremblement de terre dans les bases du couple. Parfois, pour certains gros mensonges, il peut y en avoir qui développent des stress post-traumatiques, enfin l'équivalent d'un stress post-traumatique qui a été d'ailleurs décrit par un auteur comme le stress post-infidélité.
Justement, on utilise souvent l'image de la construction quand on parle d'un couple. On peut dire là que ce sont les bases qui vacillent. Tout peut être remis en question. Alors, par exemple, en consultation, Lisa Le Tessier, il y a des personnes qui viennent en disant « je vais surmonter l'épreuve » et d'autres qui d'emblée disent « je veux passer à autre chose, je veux me guérir ».
Oui, il y a vraiment des demandes différentes. Il y a des couples, donc ça c'est plutôt des gens qui viennent en couple, hein, qui me disent, voilà, on est en train de vivre ce problème dans notre vie, mais on a envie d'essayer de s'en sortir, de continuer ensemble. On sent qu'on n'y arrivera pas tout seul, donc c'est toute une thérapie de couple justement pour reconstruire cette confiance. C'est un petit peu d'ailleurs aussi l'objectif du livre. Et puis il y en a d'autres qui ont décidé déjà que ce couple ne pouvait pas continuer, qui viennent donc seuls en séance, mais qui sentent que la confiance en l'autre de façon générale va être très 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 mise à mal, très ébranlée. Et là, il y a tout un travail de ok, comment je fais pour réapprendre à faire confiance à l'autre, pour comprendre ce qui s'est passé dans ce couple-là, pour ne pas reproduire la même erreur dans le couple d'après, etc. etc.
On voit en tout cas des personnes qui ont envie de dépasser ce mensonge. Ça veut dire qu'il y a une forme de reconnaissance. Mais Lisa Letessier, vous décrivez aussi ce qu'on pourrait désigner comme les menteurs pathologiques, ceux qui ont le mensonge en eux. Et puis il y a ces termes que vous utilisez, fuyez. Hein, oui, quand vous rencontrez ces gens, c'est pas la peine d'aller vers l'amélioration, il faut arrêter tout de suite.
Oui, parce que là, on parle vraiment de psychopathologie. Ça veut dire que le mensonge est inscrit dans un trouble de la personnalité grave, comme par exemple les pervers narcissiques ou ou des vrais problèmes de mythomanie. Donc là, on ne peut pas s'en sortir seul. En tout cas, là, c'est vraiment vaut mieux fuir et laisser l'autre peut-être se soigner tranquillement. Après, si le menteur est dans une dimension de je sens que j'ai un problème et j'ai envie d'essayer de changer ce comportement-là.
De résolution.
Voilà, bien sûr qu'il ne faut pas fuir, mais par exemple pour les pervers narcissiques, en général, ils sont pas tellement dans cet état d'esprit.
On parlait tout à l'heure de l'impact sur la vie du couple, son avenir. Bien sûr, Lisa Letessier, ça dépend des règles qui ont été fixées hein, au début par le couple, le type de contrat qui unit les partenaires. Encore faut-il qu'il y en ait un.
Ça, c'est peut-être une conversation que chaque couple devrait avoir en début de relation.
Ils parlent des fois pour l'achat d'un bien immobilier, voilà. Ils devraient aussi parler qu'est-ce que c'est la vraie construction de leur histoire.
Exactement, c'est-à-dire en début de couple, parler de ses valeurs, de même l'éducation des enfants, enfin, qu'est-ce qu'on attend d'une vie de couple, qu'est-ce que ça représente, qu'est-ce que je pense de ce truc-là, etc. C'est très important. Et il me semble que la conception de la confiance, du mensonge, de ce qui doit être dit, ce qui est important ou pas en termes de communication dans le couple, ça devrait faire partie des discussions du début.
Alors justement, avant de poursuivre cet échange, on va rencontrer un couple qui a établi un contrat bien particulier.
Priorité santé sur RFI.
Fabrice Huimot a rencontré Cécile et Robin, couple de quadragénaires de Montreuil. Ils pratiquent ce que l'on appelle le polyamour, c'est-à-dire qu'ils s'autorisent à fréquenter d'autres partenaires amoureux à condition de se le dire. Mensonge officiellement exclu de leur relation, même si ce n'est pas toujours facile à vivre comme ils nous le racontent.
Bonjour, je suis Cécile et donc je suis en relation depuis 3 ans avec Robin.
Oui, nous sommes tous les deux en relation de polyamour.
C'est une relation qui est vécue de manière consensuelle et éthique, c'est-à-dire que toutes les personnes qui sont impliquées sont au courant de ce qui est vécu. Donc il n'y a pas de mensonge quant au fait que l'on puisse avoir une relation amoureuse plus ou moins poussée avec quelqu'un d'autre.
Ça change un petit peu la place qu'a la vérité dans votre couple.
Oui, du coup, la vérité, c'est la sincérité avec laquelle on peut, l'un et l'autre, parler de ce que l'on vit.
Pour moi, déjà, le rapport exclusif, c'est-à-dire qu'on va aimer une seule personne durant toute la relation, est déjà le premier mensonge. Donc le polyamour, pour moi, c'est ouvrir les choses à plus de sincérité. Mais la difficulté là-dedans, c'est d'être en capacité d'offrir ses fragilités, ses vulnérabilités à l'autre.
Dans cette intimité que vous avez, on se dit tout.
Nous, dans notre relation, je pense qu'on se dit tout. Finalement, pour moi, c'est beaucoup plus difficile de garder quelque chose secret que d'en parler et de partager. Il est évident que s'il me voit mal et que je lui dis pas pourquoi, lui, il aura l'espace aussi pour interpréter quelque chose à côté de ce que je vis réellement.
Je constate qu'il y a eu beaucoup de non-dits de ma part et que j'ai eu besoin de garder un jardin secret, mais qu'il était aussi le fruit de ma vulnérabilité. dans tous ces non-dits, effectivement, il y avait pour moi la peur de faire souffrir Cécile. Maintenant où c'est encore plus sincère, ce n'est pas du tout ce qu'il se passe. C'est-à-dire qu'effectivement, tout ce qui est non-dit est ressenti et crée un mal-être qui est bien supérieur à ce qui est dit.
Ce jardin secret, donc, c'était de quel ordre, c'était quel type de choses, pour avoir une idée un petit peu dans votre relation?
Je pouvais dire par exemple à Cécile qu'une femme que je connaissais était simplement mon amie, alors que je ressentais de l'amour pour elle.
La zone de mensonge est compliquée à vivre pour moi. J'ai l'impression de mentir, j'ai l'impression de trahir, et j'ai l'impression de faire du mal à tout le monde, et à moi en premier. Donc je ne suis pas sereine, et puis au final, dans ma relation avec Robin, je me sens pas mieux, parce que j'ai tué quelque chose, donc je me sens pas bien. De mon point de vue, en ouvrant la porte, on permet aussi de pas se mentir, en fait.
Donc la première fois que Cécile a eu une relation d'amour autre que celle qu'on partage, je savais qu'elle avait cette relation, mais je voulais pas en entendre beaucoup plus. Je me sentais très en insécurité. C'est un équilibre difficile à tenir, dans le sens où si Cécile me dit des choses qu'elle trouve bien, qui la nourrissent dans cette relation secondaire, ça peut m'aider à me dire si ça lui fait du bien. Mais si elle m'en dit trop, si ça se passe trop bien, s'il y a trop d'amour, alors là, je vais me sentir vraiment en insécurité totale et ça va être très difficile à gérer pour moi, quoi.
J'avais peu d'espace pour en parler, puisque c'était très impactant pour Robin. Finalement, ça a créé aussi du mal-être pour nous deux. Et c'est quand Robin a pu sentir qu'il était prêt à entendre et quand moi j'ai senti que je pouvais parler, que là les choses ont pu se calmer et deux relations sereines pouvaient coexister parce que je pouvais parler à l'un et l'autre de ce que j'y vivais sans avoir à faire attention à ce que l'autre ne veut pas entendre. Il y a toujours une zone de respect où c'est pas absolument tout raconté en détail, c'est juste l'essentiel du ressenti que j'ai.
Moi, dans ce même temps où je souffrais, j'exprimais mes souffrances, mais je les exprimais pas complètement. Une des premières choses qui va m'empêcher de faire du mensonge, ça va être que je vais avoir peur de faire souffrir Cécile. Mais en le disant à Cécile, je suis conscient et en pleine conscience de la souffrance que ça va donner. C'est-à-dire que je regarde cette souffrance en face. Et ça fait toute la différence.
Et en fait, il n'y a qu'en exprimant clairement les choses qu'on peut se rendre compte de ce qui se passe en fait.
Je pense que cette valeur de sincérité, je pense que c'est à vie maintenant pour moi, quoi. J'ai trop vu les dégâts du mensonge, en fait. Et ça, je pense que ça m'a marqué à vie et je ne pourrais plus faire autrement que comme ça.
Témoignage à deux voix avec Fabrice Vuimot, couple libre. Hein, il a beaucoup théorisé ce couple, sa relation. Et on l'entend, on l'a compris, Lisa Le Tessier, le polyamour, ça n'a strictement rien à voir avec la polygamie. Hein.
Ah non, ça n'a rien à voir parce que c'est vraiment un contrat entre les deux personnes qui sont vraiment à égalité.
À droit égaux.
Voilà, à droit égaux. Et là, la confiance, c'est vraiment... le contrat de couple de départ, c'est vraiment la transparence, mais tout en gardant souvent un jardin secret. Et les polyamoureux, d'ailleurs, disent souvent que c'est un gros travail à faire sur la jalousie, la possessivité. On le voit d'ailleurs dans le témoignage.
Alors justement, vous écrivez aussi dans votre livre « Le mensonge peut menacer la stabilité d'un couple ou faire partie intégrante de son fonctionnement ». Est-ce que ça veut dire qu'il y a quand même des conjoints qui sont épanoui dans le mensonge? Mais ça veut dire quoi? Une fois que le mensonge est dévoilé, il continue de vivre comme si de rien n'était? Ou finalement, on se ment, on sait que l'autre ment et ça continue, ça marche comme ça?
En fait, il y a plusieurs cas de figure. Il y a des gens, déjà, qui fonctionnent avec le mensonge. C'est-à-dire, il y a un membre du couple qui va avoir l'habitude de mentir, d'ailleurs dans tous les domaines de sa vie, pour des choses complètement anodines. Mais lorsque, justement, son partenaire le découvre, ça devient compliqué, parce que là, c'est vraiment tous les domaines qui sont mis à mal. Après, il y a des couples aussi qui vont finalement presque, avec un contrat de base implicite ou explicite, se mettre d'accord sur le fait qu'il y a des choses qui n'ont pas besoin d'être dites. et qu'on préfère ne pas savoir et qu'on préfère finalement rester ensemble. Par exemple, là je pense à certaines infidélités sexuelles, c'est-à-dire écoute, moi je ne crois pas à la fidélité sexuelle, donc tu fais ce que tu veux, mais je veux pas le savoir.
Mmh. On est dans le non-dit.
Dans le non-dit consenti, donc c'est un petit peu différent.
Alors, on va justement voir ce qu'en disent les auditeurs de Priorité Santé. On leur donne tout de suite la parole. Avec des témoignages, le premier de ces témoignages, eh bien, c'est à Abidjan, Côte d'Ivoire, que l'on retrouve Charlie. Bonjour Charlie.
Bonjour Caroline. Bonjour à tous les auditeurs de Priorité Santé.
On vous écoute Charlie.
Il y a 2 ans, j'ai quitté ma petite amie à cause de ses mensonges qui me rendaient jaloux et violent. Au fait, il y a eu plusieurs difficultés. Quand elle vient chez moi, par exemple, pour se mettre la nuit, tard dans la nuit, elle recevait des appels. Et souvent, avant de décrocher, elle me suppliait de me taire, de ne pas faire le moindre bruit. C'est-à-dire que son interlocuteur ne doit pas savoir qu'elle est avec un homme. Si c'est la journée, elle pouvait passer plusieurs minutes à l'écart. Et j'ai commencé à la soupçonner. Donc, j'ai fouillé dans son téléphone. Et un jour, je suis tombé sur un message. J'ai compris qu'elle aimait encore son ex. Je me suis rendu à l'évidence. Et j'ai décidé de mettre fin à la relation. Ça n'a pas été facile, mais après plusieurs semaines, j'ai pu la quitter.
Ben Charlie, on peut dire que votre petite amie, ce que vous décrivez, elle n'était pas très discrète quand même, être juste à côté de vous, avoir des conversations intimes, vous dire d'être discrète, donc reconnaître qu'elle mentait à quelqu'un d'autre. Vous deviez avoir quand même de gros doutes, même avant d'aller fouiller dans ses affaires. Mais quand vous êtes allé fouiller dans ses affaires, à ce moment-là, vous saviez que si vous alliez découvrir un mensonge, votre relation allait s'écrouler ?
Oui, en effet.
Vous aviez fixé des règles, justement ? Vous aviez dit, on se dit la vérité, on ne se ment pas ?
Oui, je l'ai encouragé plusieurs fois à me dire la vérité. Je l'ai encouragé. Et j'étais prêt même à pardonner certaines choses, mais elle persistait dans le mensonge. C'est ça qui... J'ai compris que je ne pourrais jamais lui faire confiance. C'est tout ça qui m'a fait partir.
Lisa Le Tessier a écouté votre témoignage. Est-ce que vous avez une question à lui poser justement par rapport à cette vie de couple et à ce mensonge dans la vie de couple ?
Oui. Je voulais savoir, est-ce que dans un couple, est-ce qu'on doit vraiment tout se dire ? Quand je dis tout, c'est-à-dire tout.
Alors, dans un couple, on ne doit pas tout se dire, parce que c'est important que chacun ait son jardin secret, c'est-à-dire son propre espace psychique, éventuellement même ses fantasmes, etc. Mais c'est dans le jardin secret, on ne peut pas mettre des choses qui potentiellement vont modifier la relation de couple. C'est-à-dire que typiquement, une infidélité,
c'est pas
dans le jardin secret. Ça appartient à l'espace du couple. Donc il faut toujours trouver en fait la bonne distance, le bon compromis entre ok, qu'est-ce que je garde pour moi, parce que c'est important d'avoir aussi son espace, son individualité, ça fait respirer le couple. Et qu'est-ce qu'il est impossible de cacher, qu'est-ce qui est une vraie trahison. Et ça, c'est, on en parlait un petit peu tout à l'heure, ça c'est en rapport avec le contrat de départ.
Mais on n'a pas utilisé le mot, Lisa Letessier, d'honnêteté. Il y a quand même ce qui est de la part de l'imaginaire, du rêve, ce jardin secret, de son psychisme, de sa rêverie, et puis de l'honnêteté. Ce que l'on a dit qu'on ne ferait, même si on n'est pas dans la loi, et ce qu'on ne ferait pas à l'autre, nos promesses.
Oui, bien sûr, et c'est aussi avec ça qu'on parle de fidélité. Quand on dit le mot fidélité, on pense toujours à la fidélité sexuelle, mais c'est aussi la fidélité émotionnelle,
à ses principes,
à ses valeurs, à ce qu'on a dit, justement. Et c'est à ce moment-là où, quand on voit que l'autre a trahi cette confiance, cette fidélité ou cette honnêteté, que le couple est ébranlé. Moi, le témoignage de Charlie aussi me fait penser à tout le processus de reconstruction qui est possible ou non. Et en fait, pour qu'un couple sorte de cette trahison, il faut que les deux veuillent travailler. C'est-à-dire, c'est vraiment un travail à 50-50. Celui qui a menti, qui a trahi, doit prendre conscience de son comportement, prendre ses responsabilités et voilà, vraiment travailler à cette reconstruction de confiance. Celui qui a été victime de mensonges doit aussi renoncer au fait de punir l'autre pour ce qu'il a fait, et aussi d'être dans une espèce de remise en question de bon, finalement, quel comportement j'ai eu qui aussi a entraîné l'autre à faire ci ou ça, à ce moment de vie dans notre couple.
Mais il y a un moment donné, quand on se dit ça, c'est qu'on autorise l'autre aussi à faire des choses en peut-être même se culpabilisant. Parce que certains l'utilisent, justement, des menteurs qui disent « Ah bah finalement, je t'ai menti pour te rendre service » ou « C'est parce que t'étais pas assez tendre avec moi que j'ai fait ci, que j'ai fait ça ».
Alors,
là, il y a quand même une difficulté d'entendre cette chose-là.
On est d'accord, et c'est pour ça que l'idée, c'est pas du tout de culpabilité. D'ailleurs, je le précise bien dans le livre, en disant c'est vraiment dans une dimension de compréhension et pas de culpabilité. Et le choix de mentir, le choix de trahir, ça a été le choix de l'autre. C'est-à-dire qu'il y a eu un problème et à ce problème, sa solution, ça a été de mentir ou de trahir.
Mais Charlie concrètement nous dit j'ai du mal à faire confiance, qu'est-ce que je peux faire ?
Alors là, Charlie n'étant plus avec sa petite amie, si j'ai bien compris, on a ce travail de reconstruction personnel où finalement là en général on doit être aidé un petit peu parce que c'est dur de le faire seul et puis on voit qu'il nous a dit qu'il n'y arrivait pas, que maintenant il arrivait du mal à faire confiance aux filles. Donc c'est réfléchir justement à son histoire, à ce qui s'est passé, à ce qui a amené son histoire à ce moment-là, lui peut-être à ses propres schémas de méfiance, à finalement est-ce que c'est la première fois qu'il était avec une femme qui lui mentait ou est-ce que c'est quelque chose qui vient se répéter? Voilà, il y a tout un travail comme ça de reconstruction et de compréhension. Et maintenant, comment je peux faire pour installer une relation qui est, on va dire, au plus proche de mes propres valeurs?
Choisir la personne qui correspond véritablement à ses attentes. Voilà Charlie, excellente journée à vous à Abidjan, Côte d'Ivoire. On reste dans cette même métropole ivoirienne pour retrouver Guy Marcel. Bonjour Guy Marcel.
Oui, bonjour Caroline.
On vous écoute Guy Marcel.
Alors moi, j'ai rencontré ma compagne depuis 2007 et jusqu'à aujourd'hui, nous sommes en couple. Donc avant de s'engager véritablement dans une relation, pour dire qu'on allait fonder un foyer, avoir des enfants et faire avoir des projets, elle et moi, on en a discuté des principes. Le mensonge n'a pas sa place dans notre relation. Donc nous, la base de la vérité, de la confiance et de la fidélité, c'est sur ça qu'on marche. Donc, même dans les cas d'infidélité qui sont vraiment rares, on a toujours trouvé un canevas pour discuter, pour dire à l'autre que voilà, il y a eu telle situation, mais bon, c'est arrivé, voici les raisons, je demande pardon. Elle aussi, quand elle, par exemple, elle a des gens qui la draguent au service, tout et tout, elle me le dit, et puis on essaie de discuter, de trouver un canevas. Et donc, on a décidé comme ça de ne pas mentir à l'autre, parce que si le mensonge s'installe et que par inadvertance, moi je découvre qu'elle a, il y a une cachotterie qui est grave, ça peut foutre la relation en l'air. Elle aussi, si elle découvre que moi j'ai eu une infidélité ou j'ai eu des comportements qui sont pas justes, ça peut foutre la relation en l'air. Donc on part sur cette base-là. Depuis lors, ça marche jusqu'à présent.
Guy Marcel, est-ce que votre relation elle est vraiment à 50-50? Parce que quand vous l'exprimez, vous dites infidélité d'un côté et elle se fait draguer de l'autre. Est-ce que vous avez le même droit à aller voir ailleurs, comme qui dirait? Parce que moi, quand je vous entends parler, j'ai l'impression que peut-être vous avez le droit à des infidélités, elle a le droit peut-être juste au regard des hommes, non?
Non.
Égalité, en fait, égalité.
Égalité, l'infidélité, la base même de la relation, c'est la fidélité.
Mm-hmm.
La fidélité, la confiance, et puis sur nos convictions religieuses, ça nous amène à ne pas aller à gauche et à droite. Mais comme nous sommes des humains, ça peut arriver. Donc, moi, par exemple, de mon côté, c'est arrivé, mais je lui ai expliqué, elle a compris. Elle a compris.
Et vous seriez, et vous, si elle vous expliquait la même chose, vous auriez cette même compréhension dans votre contrat initial?
Oui, c'est arrivé. Ça a été un cas d'abus un peu, mais bon, j'ai pu comprendre parce que le mec, il n'était plus dans le secteur, tout et tout. J'ai pu comprendre. Ça marche jusqu'à présent, actuellement. Vraiment, ça marche.
Et ça veut dire qu'après, vous en discutez pour retrouver cette confiance? Comment ça se passe entre vous?
Oui, on en discute. Moi, je me dévoile, par exemple, et puis bon, je présente mes excuses. Elle dit, elle comprend la situation. J'étais en mission, voilà, il y avait la distance, et puis on s'est chamaillé sur un truc. Je suis allé peut-être prendre un verre avec des amis, puis c'est arrivé. Donc elle a compris, c'est pas une relation qui va durer avec l'autre. Donc voilà, elle a compris. Et puis on marche comme ça, par la prière, on se fortifie pour ne pas aller de gauche à droite.
Est-ce que vous avez une question précise à poser à Lisa Le Tessier, justement, qui a écrit ce livre sur le mensonge dans le couple par rapport à votre propre histoire?
Oui, une question. Donc, depuis 2007 jusqu'à aujourd'hui, les choses marchent. On s'est dit les vérités. À chaque fois, il n'y a pas de mensonge. Mais pour une relation qui va durer peut-être 40, 50 ans, si on continue de se dire la vérité comme ça, est-ce que ça ne va pas détériorer la relation plus tard?
Alors, détériorer, non, parce que si c'est votre contrat de départ et que vous le respectez et que tout le monde est OK avec ça, ça va pas le détériorer. Par contre, quand une relation dure, le contrat, en fait, il peut changer. C'est-à-dire, comme chaque membre du couple évolue, on peut s'être fixé des choses en début de relation et puis 10 ans après, en fait, on a un petit peu changé d'avis ou les choses se sont un petit peu modifiées. Il est important, effectivement, que cette confiance, cette transparence, elle soit des deux côtés. C'est-à-dire que quand, que par exemple, votre femme ait elle aussi le droit d'avoir des expériences de l'autre côté, que vous soyez dans la même acceptation qu'elle, qui est vraiment cette idée d'égalité entre vous deux. Après, par exemple, de dire voilà, je me suis fait draguer un moment, ça a duré 30 secondes et que finalement ça n'a aucune incidence dans le couple, ça pourrait faire partie d'un jardin secret, parce que finalement quel est l'intérêt de dévoiler ça? Je ne sais pas. Peut-être que vous en trouverez un, mais il faut aussi à long terme, savoir garder des choses pour soi et ne pas être dans une transparence complète. Il y a un auteur qui disait quelque chose comme « à force d'être complètement transparent, on ne se voit même plus ». Et ça peut arriver, effectivement.
Voilà, Guy Marcel, pour cette réponse. Tout de suite, on va partir pour le Mali, pour Bamako, où l'on retrouve Cheikh. Cheikh, on vous écoute.
Bonjour Caroline.
Bonjour. Bonjour Cheikh, on vous écoute.
En fait, moi j'ai rencontré ma compagnie en 2016 et on s'attendait très bien, vraiment. Notre amour, ça s'est passé très bien, mais arrivé au niveau de 2017, justement vers le mois de décembre 2017, on a commencé à rencontrer des petits fights dans notre couple. En fait, moi, je voyage beaucoup. Souvent, quand je voyage, je l'appelais et puis on discutait plus bien. Mais dans le mois de décembre, j'ai effectué un voyage d'une semaine et à mon retour, on a essayé de sortir ensemble dans un premier temps. Donc, elle a essayé de me dire qu'elle doit sortir avec ses amis. Et du coup, moi, je l'ai laissé sortir parce que comme moi, je bouge beaucoup, bon, je n'aime pas de faire la pression sur l'autre. Bon, je lui laisse libre. Donc, le 25 décembre, il y a mon amie qui fait savoir, parce qu'elle m'avait demandé qu'elle doit sortir avec ses copines. Après sa sortie, mon amie m'appelle en me disant qu'elle voit ma copine entrer dans un hôtel de la place avec un autre mec. Quand je lui dis, c'est bien, mais lorsqu'elle est retournée, bon, je ne lui ai pas demandé ni rien, mais ça a beaucoup choqué chez moi.
Cheikh, pourquoi vous ne lui avez pas posé la question alors que vous aviez des éléments qui montraient qu'elle pouvait vous avoir menti? Pourquoi vous n'êtes pas allé la voir en lui disant simplement « qu'est-ce qui s'est passé? Un ami t'a vu? Qu'est-ce que tu as fait ce jour-là ?»
Oui, c'est parce que moi, je suis quelqu'un, du fait que moi j'ai eu tous ces éléments-là, j'ai été très jaloux et moi je me suis dit que quand je vais la demander « qu'est-ce qui s'est passé ?» ça s'est passé autrement, raison pour laquelle moi j'ai essayé de la laisser et puis... Après que j'ai commencé à fouiller dans son téléphone et que je voyais des messages d'intimité.
Et vous avez rompu?
Oui, j'ai rompu automatiquement parce que moi, je n'ai pas pu tenir le coup.
Et aujourd'hui, vous êtes seul? Aujourd'hui, vous avez une relation avec quelqu'un d'autre ou c'est difficile pour vous?
Aujourd'hui, vraiment, c'est beaucoup difficile pour moi. Je suis seul dans le sens.
Vous avez du mal à refaire confiance, c'est bien ça?
Oui.
Lisa Letessier, ce témoignage, en tout cas, un élément qu'on n'a pas eu dans les autres témoignages jusque-là, c'est l'intervention d'un tiers qui va venir dire, voilà, moi j'ai été témoin du mensonge, et vous le dites dans le livre, les amis, ça peut compter aussi dans cette problématique du mensonge dans le couple. Hein.
Oui, là c'est une autre question, c'est-à-dire si je me rends compte que la femme ou l'homme de mon ami le trompe ou lui ment,
quelle attitude
qu'est-ce
je
que
avoir.
J'en fais, qu'est-ce que je vais lui dire, est-ce que je vais parler au menteur directement, et ça c'est vraiment du cas par cas, c'est-à-dire ça dépend de qui on parle, de quel couple on parle, des personnalités des intervenants, donc on peut pas faire de généralité sur cette question, mais il faut toujours se demander à ce moment-là quelles vont être les conséquences de mon comportement, c'est-à-dire si je vais dire est-ce que l'autre va être plutôt reconnaissant ou est-ce que il m'en voudra à vie si je ne dis pas, même question. Voilà. Moi, dans le témoignage de Sheikh, je me demandais juste, est-ce que
il est encore en ligne.
Est-ce que Sheikh,
vous êtes là,
vous avez finalement parlé à votre copine? Est-ce que vous lui avez, par exemple, quand vous l'avez quitté, est-ce que vous lui avez dit pourquoi? Est-ce que
vous avez eu une explication avec votre ami Sheikh?
Oui, après, lorsque moi j'ai essayé de rompre avec elle, moi je lui ai expliqué le cas. Je dis, mais le jour où tu m'as dit que tu vas sortir avec tes commis, il y a mon ami qui m'a fait savoir que tu étais avec un autre mec. Donc, puisque c'est là, je suis en train de me tromper pour un autre gars. Donc, vraiment, je peux continuer avec toi. Donc, c'est comme ça qu'on a arrêté.
Et qu'est-ce qu'elle vous a dit?
Et avant ça. Bon, elle a essayé toujours de me faire convaincre, mais vraiment, j'étais très jaloux et j'ai pas pu tenir les coups. Elle s'est sortie.
Est-ce qu'elle a fini par reconnaître qu'elle vous avait menti, qu'elle vous avait trompé ou pas? Est-ce qu'il y a eu finalement cet aveu ou pas?
Oui, elle a pu reconnaître ça. Elle a pu reconnaître ça.
Lisa Letessier, ce qu'on voit aussi bien avec le témoignage de Sheikh que tout à l'heure avec celui de Charlie, c'est que longtemps après, la confiance n'est pas revenue. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu cette réconciliation, il n'y a pas eu en fait cette capacité à dépasser ce que vous parliez peut-être tout à l'heure, vous employez ce terme de traumatisme de l'infidélité. En tout cas, c'est dur de reprendre confiance après un mensonge pareil.
C'est très dur de reprendre confiance en celui qui a menti, c'est dur de reprendre confiance en général. C'est pour ça que parfois on a besoin. Enfin, il y a des gens qui y arrivent vraiment à faire ce travail, mais il faut une grande force et des bonnes bases psychiques de confiance pour pouvoir reconstruire tout ça. Mais c'est pour ça que souvent on retrouve ces couples-là dans nos cabinets parce que on a vraiment besoin d'aide pour réussir à reconstruire. C'est un vrai traumatisme, donc. Quand on est dans une intention de rester avec l'autre, on a souvent besoin d'un peu d'aide.
En tout cas, on souhaite une bonne journée à Sheikh à Bamako, au Mali. On va voir justement, on disait, ce travail avec les couples, même avec les individus. On va voir comment ça se passe en Afrique de l'Ouest dans quelques instants.
RFI.
Alors, c'est à Goma qu'on vous retrouve, Fidelia Ojo. Bonjour.
Bonjour Caroline.
Mais vous êtes psychologue clinicienne au Bénin, vous êtes en mission actuellement à RDC. On va parler justement de la situation au Bénin, oui. Où vous travaillez avec ces personnes, avec des couples parfois, sur cette question de la trahison au sein du couple en général. Justement, ce sont des consultations à deux ou des consultations individuelles?
Généralement, c'est des consultations individuelles, plus rarement des consultations à deux. Voilà comment ça se passe au Bénin.
Et les personnes qui viennent vous voir en difficulté justement dans leur vie de couple, elles ont conscience que c'est souvent une trahison, une infidélité ou même simplement un mensonge qui a pu en fait abîmer la relation?
Parfois, le mensonge est au cœur des difficultés au sein du couple. Et quand c'est comme ça, généralement, le conjoint ou la conjointe qui a découvert le mensonge veut tout simplement que l'autre il avoue les faits et qu'il fasse profil bas.
Est-ce que vous avez l'impression justement avec les personnes que vous rencontrez, les hommes, les femmes, que justement les différences entre les deux sexes, les préjugés ont la vie dure en matière de mensonge au Bénin?
Oui, d'abord, il faut reconnaître que la société béninoise, elle est encore phallocrate. Alors quand c'est l'homme qui ment et que la femme découvre, c'est l'homme qui finit toujours par avoir raison. Soit il raconte sa version des faits, mais bon, de toutes les manières, c'est lui qui finit toujours par avoir raison. Mais quand c'est l'inverse, c'est-à-dire que c'est la femme qui a menti et que l'homme le découvre, il peut aller même jusqu'à la répudier, c'est-à-dire qu'il en fait toute une histoire. Voilà un peu comment ça se passe dans notre société au Bénin.
Et en général, les couples se dirigent vers une réparation, une réconciliation. C'est la volonté qu'ils expriment ou la séparation est fréquente. Quel cas de figure est-ce que vous rencontrez en consultation?
Ça dépend. Si c'est l'homme qui est souvent en faute, généralement, la femme concède plus aisément. Mais quand c'est l'inverse, l'homme concède très, très, très difficilement. Donc, mais si les deux veulent bien recoller les morceaux, c'est possible et ça peut se faire. Généralement, ils font intervenir une tierce personne, membre de la famille le plus souvent, ou ça peut être un pasteur, ça peut être un prêtre, un leader religieux qui les aide à recoller les morceaux.
Une autorité extérieure, mais est-ce que vous leur proposez un travail personnel, une réflexion pour savoir comment est-ce qu'ils en sont arrivés là dans leur vie de couple?
Absolument, absolument. Ce que moi, d'habitude, je leur propose, c'est de renforcer surtout le niveau de communication au sein du couple et de refaire des activités en commun. Histoire de se découvrir un peu plus et de développer une plus grande complicité.
Merci beaucoup. Hein. Merci d'avoir répondu à nos questions, Fidelia Ojo. Je rappelle que vous êtes psychologue clinicienne au Bénin et actuellement en mission humanitaire en RDC à Goma.
RFI à Goma, 98 FM.
Alors, Lisa Le Tessier, hein, dernière partie de cet échange, de cet entretien. On essaye de comprendre ce qui se passe en nous, des fois aussi dans l'histoire de l'autre, pourquoi cette personne a été amenée un jour à mentir. Vous le dites, réconcilier, comprendre, mais ça ne veut pas dire donner son accord.
Non, ça ne veut pas dire être d'accord avec
absoudre.
Ce qui s'est passé. Et pardonner, ça ne veut pas dire non plus être d'accord avec ce qui s'est passé. La finalité de ce travail que je propose, c'est déjà de décider est-ce que j'ai envie de rester avec l'autre ou pas. Que l'on ait envie de rester avec l'autre ou pas, il me semble que réussir à pardonner à l'autre, c'est-à-dire en fait finalement à digérer cette histoire, est très important pour le couple, mais surtout pour soi-même. Parce que la rancœur peut vraiment grignoter de l'intérieur et être extrêmement toxique pour celui qui la ressent. Pardonner, ça veut dire cesser de vouloir punir l'autre. Ça veut dire pouvoir ressentir de la bienveillance vis-à-vis de l'autre. Mais ça veut pas dire « je veux rester avec toi ». Une fois qu'on a pardonné, on peut décider quand même de quitter, de dire « non, écoute, je te pardonne, mais... » Mais en fait, avec ce travail de réflexion, j'ai compris que ce couple-là ne me convenait plus. Et évidemment, on peut décider de rester avec l'autre et de repartir sur des bases beaucoup plus saines.
Alors, des attitudes qui peuvent changer. Tout à l'heure, on parlait parfois du rôle des amis. Quelque chose d'important aussi, c'est quand on nous a menti, quand on souffre, et quand il y a un couple, des fois, il y a des enfants, comment paraître sans abîmer toutes les images de cette famille, par exemple, auprès des enfants?
Alors ça, c'est très, très compliqué, parce que quand on vient de vivre une trahison, comme on l'a vu tout à l'heure, les émotions sont extrêmement violentes et réussir à ne rien laisser transparaître, à ne jamais hausser le ton devant les enfants, c'est quand même extrêmement compliqué. Alors évidemment, si on y arrive, tant mieux, mais si on n'y arrive pas, va falloir ouvrir le dialogue avec les enfants. Il n'y a rien de pire pour un enfant que ressentir une atmosphère pesante et toxique au milieu de plein de non-dits. C'est-à-dire, non, c'est bon, t'inquiète pas, tout va bien. Alors que l'enfant, quel que soit son âge, perçoit évidemment que non, ça ne va pas du tout. Alors là, il va falloir ouvrir le dialogue, mais pas n'importe comment, pas à n'importe quel moment, et avec des mots adaptés à l'âge de l'enfant.
Alors on va prendre un autre auditeur, un dernier auditeur qui nous appelle du Gabon, de Libreville, c'est Gaël, et on lui donne tout de suite la parole. Bonjour Gaël.
Bonjour madame.
On vous écoute Gaël.
Oui, par rapport au thème d'aujourd'hui, je disais tantôt que le mensonge, en fait, quelquefois, s'avère nécessaire. Et surtout que, d'après mon expérience, j'ai constaté que les femmes aiment bien le mensonge, préfèrent le mensonge à la vérité. Donc, je voudrais pour cela prendre un petit exemple, ou deux petits exemples, si vous me permettez.
Oui.
Vous voyez, j'ai eu à promettre à ma femme le mariage d'ici la fin 2019. Mmh. Je sais pourtant bien que ça ne pourra pas se réaliser avant 2025, mais le fait que ça lui fasse plaisir, je préfère lui dire pour qu'elle se sente bien dans sa peau.
Et si voilà. Elle vous écoute en ce moment et qu'elle se rend compte, Gaëlle, qu'il nous appelait du Gabon, que vous êtes en train de lui mentir ouvertement, vous pensez que ça va lui faire plaisir? Vous pensez que ça la rassure? Vous pensez que ça la rassure de s'engager avec un homme qui dit, voilà, je te donne une fausse date, je te mens, et comme ça, je te rends heureuse? Vous pensez vraiment que ça fait plaisir à une femme?
Non, du tout, ça lui ferait pas plaisir, mais je ne pense pas que Dieu soit contre moi pour lui faire écouter cette émission à cette heure-ci. Donc,
Gaël, je ne juge pas, mais honnêtement, vous me faites sourire.
Alors,
parce que je trouve que vous y allez très fort, Gaël.
Alors, Gaël, bonjour, c'est Lisa Letessier qui vous parle. J'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Les femmes ne préfèrent pas le mensonge à la vérité. Je suis désolée de vous apprendre ça aujourd'hui. Là, alors plus sérieusement, on est typiquement dans le cas de quelqu'un qui ment pour éviter le conflit. Et ce qui est en fait extrêmement courant et commun. Et c'est vrai que pour se rassurer soi-même sur son comportement, on a tendance à se dire mais non, c'est pour protéger l'autre, elle préfère qu'on lui mente, au moins elle n'aura pas d'émotions désagréables. Mais là, on est en train de décider à la place de l'autre.
Il y a un bon sentiment pour quand même quelque chose, voilà.
Après,
épargner, on va dire, voilà, épargner l'autre.
Si sa femme, dès le départ de la relation, lui a dit, tu sais, moi, en fait, je préfère que de temps en temps, tu me mentes sur des choses qui ne sont pas très graves parce que ça évite qu'on se dispute, ça va faire partie de leur contrat de couple. Mm-hmm. Mais si ce n'est pas le cas, en général, effectivement, ça va pas très bien se passer.
Gaëlle, avec votre amie, vous avez fixé les choses. Vous lui avez dit, c'est comme ça que ça va se passer dans notre histoire. Vous imaginez la vie demain, où vous allez habiter, si vous allez avoir des enfants. Mais aussi, est-ce qu'on va se mentir ou est-ce qu'on va se dire la vérité? Vous en avez parlé?
Non, pas du tout. Mais c'est pas pour autant dire que le fait que je lui mente, c'est pas que je l'aime pas. Vous voyez, c'est juste un mensonge pour du bien. Par exemple, comme vous êtes en train de bien lui dire, il m'arrive souvent de lui mentir. Par exemple, quand je suis avec des amis pour prendre un pot, il lui dit que je suis chez mes parents. Pourtant, je suis en train de prendre un pot. Pourtant, si je lui dis cela...
Et vous mentiez à vos parents aussi? Vous mentiez aussi à vos parents, Gaël?
Non, du tout.
Alors, voilà. Gaël, vous lui dites, je lui mens pour faire du bien, mais finalement, est-ce que c'est pas à vous que vous faites du bien en mentant? Pour vous protéger vous-même d'une éventuelle réaction désagréable? Voilà.
Si, mais là, ça l'arrange aussi. Là, c'est pour qu'elle ne se sente pas frustrée un peu.
Gaëlle, c'est votre point de vue, voilà, votre propre expérience du mensonge, qui contredit quand même un petit peu, on peut le dire, hein, ce qu'on a dit depuis le début de cette émission. Ce sera notre mot de la fin, comme quoi il en faut pour tous les goûts. Merci Lisa Letessier de nous avoir éclairé, d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes psychologue clinicienne. Je rappelle le titre de votre livre qu'on peut conseiller à Gaëlle, hein, Le mensonge dans le couple, publié aux éditions Odile Jacob.
Priorité santé sur RFI.
On va parler à présent de cette étude qui vient d'être publiée. Émergence de souches de tuberculose multirésistante non détectées par les tests standards. Et on va le voir, c'est important. Étude qui démontre l'émergence de ces souches qui ne font pas réagir les tests pourtant approuvés par l'OMS. On en parle avec vous, Philippe Supply, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de recherche du CNRS au Centre d'infection et d'immunité de Lille. Alors comment expliquer justement, on peut dire, ces faux négatifs, hein, ces résultats de tests tronqués, pourquoi ces souches ne sont-elles pas détectées ?
Elles ne sont pas détectées parce que les tests standards qui sont approuvés par l'OMS ne fonctionnent pas avec ces souches. Donc en fait, ces tests standards sont de deux types. Il y a des tests qui sont basés sur la mise en culture des souches en présence de chacun des antibiotiques utilisés pour le traitement, pour savoir si ces souches sont résistantes à ces antibiotiques. Et le problème, c'est que les tests basés sur les cultures ne fonctionnent pas pour la détection de résistance à un antibiotique principal utilisé pour le traitement pour certaines de ces souches particulières.
Est-ce que ça veut dire que quand les souches évoluent, il faut dans le même temps faire évoluer les tests ?
Absolument, il faut améliorer constamment les tests parce que il faut pouvoir couvrir tous les profils de résistance des souches qui apparaissent de par le monde, et ces profils de résistance sont très diversifiés. Donc il y a une deuxième catégorie de tests qui sont utilisés, des tests qui sont basés sur les analyses de l'ADN des bactéries pour détecter la présence de mutations qui déterminent aussi ces résistances. Et les tests ADN standards ne détectent malheureusement pas non plus certaines des mutations qui déterminent la résistance à cet antibiotique principal chez ces mêmes souches.
Est-ce qu'il y a des régions qui sont particulièrement concernées par cette problématique ?
Oui, en fait, il y a deux zones mondiales qui sont principalement concernées. C'est l'Afrique et l'Asie du Sud-Ouest, où ces formes multirésistantes de la tuberculose sont particulièrement prévalentes.
Et c'est quoi la conséquence de ces tests faux négatifs, on l'a dit, dans la prise en charge de la tuberculose ? Quels sont les risques ?
Donc en fait, nous ce qu'on a montré, c'est que ces problèmes de sous-diagnostic ou de mauvais diagnostic entraînent des conséquences particulièrement graves. Donc on l'a montré dans le cadre de l'étude qu'on a réalisée en Afrique du Sud, mais ces problèmes peuvent être évidemment similaires dans d'autres régions du monde. En fait, cela entraîne des traitements qui sont inefficaces pour les patients, une mortalité et une contagion accrue, et une accumulation de résistance additionnelle dans les souches de bactéries en question, et par exemple même des résistances contre les dernières molécules qui ont été développées pour traiter les formes multirésistantes de tuberculose.
Il nous reste moins d'une minute, Philippe Supli. Malgré tout, est-ce qu'il y a justement un espoir ? Est-ce qu'il y a des pistes pour aller vers des tests qui seraient plus efficaces ?
Oui, donc nous avons développé un nouveau test de dépistage de multirésistance de la bactérie que nous avons utilisé dans cette étude. Donc ça a été développé avec une entreprise implantée sur notre campus à l'Institut Pasteur de Lille. Et donc ce test présente l'avantage principal d'analyser un large panel de gènes de la bactérie, et donc qui permet d'identifier des résistances à plus d'une dizaine d'antibiotiques simultanément, beaucoup plus qu'avec les tests standards. Et ils sont aussi beaucoup plus rapides. On peut obtenir des résultats en 1 à 3 jours au lieu de semaines nécessaires aux tests de culture.
Merci beaucoup Philippe Supli. Je rappelle que vous êtes directeur de recherche au Centre d'infection et d'immunité de Lille. Priorité santé touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui chaque jour fabrique et réalise votre émission. Demain, à ce micro, vous retrouvez Diarran Diaye, émission consacrée à la journée internationale de lutte contre la polio. Vos témoignages au 33 84 22 75 75.
C'était Priorité Santé avec Sunwa Assurance, qui vous propose l'assurance habitation pour protéger vos biens, vos proches et votre voisinage. Sunwa Assurance, notre métier, l'assurance.